L'affiche d'un match retour. À droite, Donald Trump, 77 ans, ex-président républicain revanchard. À gauche, l'actuel locataire démocrate de la Maison-Blanche, Joe Biden, 81 ans. Entre eux, pas de cadeau. À 10 mois de la présidentielle américaine, tous les coups sont permis.
We have the worst president in history. We have a president who can't walk off the stage. See this thing? He can't find the steps.
Joe Biden encaisse, muscle son jeu et frappe à son tour, là où ça fait mal.
Is democracy still America's sacred cause? You can't be pro-insurrectionist and pro-American.
3 ans après l'attaque du Capitole par ses partisans, Donald Trump est cerné par les affaires judiciaires. Mais à l'approche des premières primaires républicaines, lundi prochain, dans le petit état de l'Iowa, les Trumpistes croient en la victoire de leur champion et dénoncent des manœuvres politiciennes. Trump-Biden se confirme officiellement dans les prochaines semaines. Les chancelleries du monde entier scruteront les sondages et les déclarations. Joe Biden a déjà dit s'inquiéter pour la fascination de son rival pour les hommes à poigne.
Look at the authoritarian leaders and dictators. Trump says he admires. The outmoded says he admires.
Si Donald Trump était réélu, quel tour prendraient les conflits en Ukraine et au Proche-Orient? S'engagerait-il dans un nouveau bras de fer avec l'Europe qu'il aime tant détester depuis des années?
I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe, what they do to us in trade.
Alors le camp démocrate peut-il encore empêcher une victoire de l'imprévisible milliardaire? Ou faut-il se préparer au comeback de Donald Trump en 2024?
Non, ce n'est pas un processus électoral pour rien. Simplement, vous avez un candidat qui domine largement tous les autres dans le camp républicain. Mmh. Et dans le camp démocrate, vous avez un président sortant qui estime avoir la nomination acquise et pour lequel il n'y aura pas véritablement de conteste. Maintenant, il y aura un conteste chez les républicains. Pour l'instant, ce qu'on a, ce sont uniquement des sondages. Donald Trump domine largement ses sondages. Il pourrait même, il est crédité d'une majorité absolue.
Presque 60%, c'est ça?
Ça dépend des États, mais c'est entre 55 et 65. Mmh. Donc, pour l'instant, personne n'a voté, donc ça ne compte pas. La semaine prochaine, il y aura ce qui s'appelle le caucus de l'Iowa, donc la première réunion avec un premier vote. Et on verra comment se comporte Nikki Haley, qui est donc l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, qui se présente contre lui. Mmh. Et puis, quel score fera Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride, qui se présente également contre lui. Et on s'attend à ce que Donald Trump gagne avec au-delà de 50% des voix. Et puis, on verra où sont les autres. Je n'ai nommé que ces deux-là, même s'il y a également deux autres candidats. Hein, Chris Christie, l'ancien gouverneur de New Jersey. Voilà. Mais il compte un petit peu moins. Et M. Vivek Ramaswamy, qui est un petit peu à la traîne. En fait, les deux adversaires qui ont encore une petite chance, ce sont Nikki Haley et Ron DeSantis.
On peut imaginer déjà que le fait que Trump ayant été président au début, et maintenant il n'est pas président et il est très bien capable de jouer à l'opposition, de cette position d'avantage. Ça nous parle de la division du parti républicain qui n'est pas capable de présenter une alternative à Trump et du fait qu'il y a un décalage en vrai entre la base électorale qui est largement favorable à Trump et le Congrès, où on voit que les supporters MAGA de Trump,
Make America Great Again,
sont quand même une minorité, mais qui sont très parlants à cause de la faible majorité des républicains. Et du coup, de l'autre côté, la vice-présidente, on peut dire que Kamala Harris a eu des dossiers difficiles à gérer, comme l'immigration. Donc, c'est toujours un argument toxique et qui parle plutôt où les républicains peuvent percer plus facilement. Et de l'autre côté, elle a été très occupée au Sénat parce que, vous savez, le vice-président est capable de break the tie. Donc, de break the tie.
Ça veut dire, en bon français,
rompre l'équilibre. Oui. Donc, la majorité, son camp.
Oui. Bon, donc, en effet, Biden est la meilleure chance de succès pour Trump. Mais je dirais que l'inverse est vrai aussi.
Et vice versa.
L'inverse est vrai aussi parce qu'en fait, si on regarde bien, ça a toujours été le cas de façon dans l'histoire américaine, les présidents se positionnent toujours contre leur prédécesseur et les candidats contre le président. Et en fait, si on regarde bien la rhétorique de Biden et la rhétorique de Trump, les deux se servent en fait. Les deux se servent, les deux. Finalement, chacun est utile à l'autre. Lorsqu'on écoute Trump, il est évidemment clair, je suis un anti-Biden, je vais faire tout ce que Biden n'a pas fait, et inversement, je vais recoller les morceaux là où Biden a détricoté l'Amérique. Mais à l'inverse, quand on écoute Biden, Trump est évidemment le méchant qui menace la démocratie. Et évidemment, on peut se dire que Trump sert Biden autant que Biden sert Trump.
Oui. C'est jamais du bluff. Justement, c'est tout le problème autour de l'avantage de Donald Trump. C'est jamais du bluff avec lui. C'est pour ça que ses arguments parfois pèsent ou impressionnent. Non, non, il a dit qu'il allait résoudre le problème en 24 heures.
Comment?
Ça, c'est un petit peu ambitieux. Ah ben écoutez, c'est très simple. Il va le faire à la Trump. Hein. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Il va prendre son téléphone. Il a dit qu'il le ferait le deuxième jour. Le premier jour, il va fermer la frontière parce qu'il y a un problème avec la frontière mexicaine pour les États-Unis. Mais le deuxième jour, il décroche son téléphone. Il appelle Vladimir Poutine et lui dit vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Vous êtes en train de saigner votre pays. Ça vous coûte un prix fou en argent et en vie humaine. C'est une tragédie qui doit cesser. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis après, il appelle Zelensky et il lui dit vous n'êtes pas capable de gagner cette guerre. Nous, on peut vous empêcher de la...
Vous êtes son ghostwriter?
Oui, absolument. On peut vous empêcher de la perdre, mais on n'a pas vocation à le faire éternellement. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Mais Zelensky le sait un petit peu et il le craint très fort parce qu'il a bien compris que le soutien américain était quand même essentiel au maintien de l'effort de guerre en Ukraine et que une fois, si Trump venait à être réélu, réélu une deuxième fois, même pas consécutivement, ce soutien serait remis en cause. Ça, c'est inévitable.
Financièrement, oui.
Je voulais préciser que le même jour qu'il a dit qu'il allait fermer la frontière avec le Mexique, il a aussi dit qu'il allait être dictateur que pour un seul jour. Donc il faut quand même rappeler.
C'était une blague. Hein.
Bon. On ne sait jamais avec Trump. C'est très important le point sur l'Ukraine, parce que ça relève de la sécurité des Européens. Et notamment de la préparation des Européens. Moi, je ne crois pas que les Européens ne croient pas à un retour de Trump. Moi, je pense que chacun dans les capitales européennes fait ses calculs, et notamment pour ceux qui concernent la sécurité. Et concernant la logique de Trump, qui a tendance à être très court-termiste et avec des avantages et des gains personnels, mais aussi politique intérieure, et étrangères, il faut se poser la question à quel point cet accord avec Moscou ça se passe sous la tête des Européens et aussi quel avantage aurait et en quelle mesure ça pourrait être trop déséquilibré en faveur de Moscou et donc pour la sécurité européenne.
De la politique étrangère de Donald Trump, il ne faut pas oublier que son axe principal c'est l'imprévisibilité. Donc évidemment il y a une ligne idéologique, clairement. On a souvent accusé Trump, à tort, selon moi, d'être un isolationniste. En fait, c'est plus un jacksonien.
C'est-à-dire qu'il
n'est pas contre toute forme d'intervention, mais lorsqu'on intervient, c'est pour le grand V de la victoire. En gros, on montre les muscles lorsqu'il faut intervenir. Mais l'isolationnisme, c'est encore autre chose. Mais d'une manière générale, je pense que cet aspect imprévisible, il faut le garder en tête. C'est-à-dire qu'on a vu pendant le premier mandat de Donald Trump que finalement, ses liens avec la Russie étaient clairs. Trump a longtemps affiché un soutien vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il y a eu des tensions très fortes, notamment lorsqu'on parlait à l'époque donc, de l'ingérence russe dans la campagne. Et donc, vous avez évoqué la Chine, sous tension très forte avec la Chine, on ne sait pas comment Trump pourrait réagir face à la Russie. On peut aussi imaginer peut-être un revirement de situation et peut-être un éloignement de Trump vis-à-vis de la Russie. Tout est possible, cette imprévisibilité est souvent mise en avant.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a une ligne Trump. C'est-à-dire qu'il est imprévisible dans ses déclarations, il est imprévisible dans son comportement, il est un petit peu imprévisible dans ses menaces parfois. Mais comme le disait monsieur à l'instant, il y a une ligne Trump. Son intérêt, c'est d'abord l'intérêt des États-Unis, c'est la puissance américaine. Un monde stable est bénéfice au commerce, donc est bénéfice aux États-Unis. Le monde actuellement est très instable et très dangereux, et son intérêt n'est pas de le rendre plus instable. Et c'est au contraire de chercher à résoudre des problèmes, peut-être de manière un petit peu trop court-termiste, ça c'était tout à fait exact, mais cette volonté qu'il aura de mettre un terme à des conflits, elle est réelle. Maintenant, c'est pas mettre un terme à un conflit pour en provoquer
un autre,
c'est pas du tout son intention. Par contre, vis-à-vis de la Chine, je crois qu'il aura une attitude beaucoup plus ferme que celle qu'on a vue de la part de Joe Biden depuis quelques années.
Évidemment de la continuité et vous mettez en relief une tendance de fond des États-Unis qui sont moins engagés sur le libre-échange. En fait, il y a ce retour vers un peu cette tendance protectionniste, mais il y a des différentes façons de la mettre en place. Évidemment, avec Joe Biden, on a vu le Conseil sur le commerce et la technologie, qui est une enceinte où l'Union européenne est représentée, où en fait les États-Unis et l'Europe peuvent échanger justement sur les questions commerciales et plus techniques. qui relève le commerce. Par contre, on sait qu'avec une présidence Trump, il n'y aura pas vraiment de concertation de ce type.
Et, il n'y a pas de discussion, pas de dialogue.
En fait, je vous rappelle que Trump a dit que l'Union européenne était aussi nocive que la Chine, sauf un plus petit. Et ça parle l'approche que Trump a vis-à-vis de l'Union européenne et les mesures de protection de la qualité, du commerce européen, et qu'il perçoit comme hostile aux États-Unis, et surtout pour ce qui concerne le climat et les mesures de contrôle de carbone aux frontières.
Pierre Bon, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que si vous regardez la politique étrangère de, la politique intérieure de, économique de,
Joe Biden.
De Joe Biden, en fait, est relativement proche de celle de Donald Trump au début de son premier mandat. En fait, Donald Trump avait des bons chiffres également, avant le Covid. Le Covid, évidemment, est venu un peu touche un boulet. Donc, évidemment, Biden a réussi à rattraper la situation, mais au prix de quoi ? Au prix d'une inflation importante. Et aujourd'hui, il paye, principalement chez les jeunes, cette inflation. Les jeunes, notamment ceux qui veulent accéder à la propriété, ont du mal à accéder à la propriété, donc notamment à l'achat d'une maison. Et donc ça, Biden le paye directement. Donc, des bons résultats, oui, mais des résultats au prix d'un endettement et d'une inflation importante. Et justement, je revenais sur cette comparaison avec Trump. Encore une fois, Trump avait aussi des bons résultats économiques. Oui. Alors, sur savoir si oui ou non la politique étrangère va jouer davantage que la politique intérieure, on a tendance à dire que la politique étrangère, d'une manière générale, pèse moins en matière de campagne électorale. Cette fois-ci, je dirais, alors c'est peut-être le sens de votre prochaine question, je dirais quand même que ce qui se passe au Moyen-Orient, évidemment, enfin Proche-Orient, va jouer peut-être un rôle important.
Qui était absente.
Donc le pouvoir d'achat.
L'inflation, c'est ce que les Américains ressentent au quotidien.
Qui a été jugulé tout de même depuis.
Qui a été jugulé, mais qui a été énorme sur 21 et 22. On était à 7-8% l'an. Et sur les produits de première nécessité, sur l'énergie, parfois, l'ardoise avait augmenté de manière beaucoup plus considérable. Et donc, les Américains ont perçu le début du mandat de Biden comme très très difficile économiquement. Les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est pas encore perçu au niveau du portefeuille, comme on dit. Et donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, on l'a constaté, à l'automne, Joe Biden a voulu vendre son programme économique, ce qu'il appelle en anglais Bidenomics. Et puis en début de campagne, il a totalement viré de bord et il attaque Donald Trump sur le plan de la démocratie, etc.
Gérald Olivier, revenons. Quelles modifications dans l'attitude et dans la diplomatie pourraient être engagées par Donald Trump ?
Il y aura deux axes. Vous avez toujours un soutien à Israël qui sera rock solide, comme on dit en anglais, qui sera inattaquable. Et je pense que par contre, il aura une attitude beaucoup plus agressive, et notamment en termes de représailles ou de rétaliations contre l'Iran et contre la façon dont l'Iran contribue à une partie de la déstabilisation. Non pas simplement, je ne parle pas uniquement de la guerre entre le Hamas et Israël, mais je parle du commerce à travers la mer Rouge, qui actuellement est menacée par une série d'attaques régulières des rebelles du Yémen, qui sont financées par l'Iran, et contre lesquelles les Américains ne font pas grand-chose. Donc je pense que sur ce plan-là, de ce dossier, il serait beaucoup plus actif et beaucoup plus agressif.
J'utilisais l'expression d'adulte dans la pièce, parce que si on regarde le mandat de Trump 1, il y avait plusieurs fonctionnaires de l'État profond, du deep state, comme on l'appelle en anglais, qui étaient un peu des freins pour la
réserver
l'action,
les institutions.
Préserver les institutions, mais aussi les actions de politique étrangère que Trump aurait pu faire. Et en gros, on peut voir que ça ne sera pas le cas pour le deuxième mandat. Déjà, on voit par exemple la Heritage Foundation, qui est un think tank conservateur, qui commence à recruter prochains membres qui feront partie de l'administration Trump, qui est selon des critères plus précis et selon les recherches qu'on mène aussi aux États-Unis. On entend beaucoup qu'il n'y aura pas de néoconservateurs, donc de républicains un peu plus classiques dans l'administration Trump.
Modérés.
Qui peuvent en certaine manière restreindre. C'est un président qui va demander certaines actions et il aura des gens qui seront capables de les mettre en place.
Aussi,
faiseur de paix, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas déclenché de guerre, ça c'est sûr. Les images qu'on a vues là, c'est pour moi le principal changement. C'est-à-dire qu'on a un président américain qui serre la main donc, de dictateurs ouvertement affichés dans le monde. C'est peut-être ça le point de bascule, si point de bascule il y a, cette idée de peut-être un renversement des alliances traditionnelles, ce qu'on avait déjà vu lors du